Et à 7h, je vous souhaite un très bon réveil et j'accueille Catherine Dutu pour le journal. Bonjour Catherine. Et
bonjour Guillaume, bonjour à tous. Dans la rue comme dans les maisons de retraite, les personnes âgées sont au cœur de l'actualité. Les retraités sont appelés à manifester pour défendre leur pouvoir d'achat aujourd'hui. Grève dans les EHPAD. Par ailleurs, les professionnels de l'aide aux personnes dépendantes réclament encore et toujours davantage de moyens humains et financiers.
La guerre en Syrie entre dans sa 8e année aujourd'hui, 10 mois par ailleurs de présidence Macron. Et c'est une journée spéciale sur France Culture. L'occasion pour nous de revenir sur le rôle de la France qui en 7 ans oscille entre possible intervention militaire en Syrie et encouragement au pourparlers.
Et puis dans ce journal, nous irons également à la frontière entre la Syrie et la Jordanie, le désert enfer pour des réfugiés syriens. De François Hollande à Emmanuel Macron, comment expliquer les feux d'une croissance plus dynamique? Ce sera la question posée par Jean-Marc Chardon dans son billet économique à la fin de ce journal.
Et dans la question du jour, dans une quinzaine de minutes, Catherine, la France souffre-t-elle du surtourisme? Le surtourisme, c'est comme ça qu'on dit. On vous expliquera ce qu'est le surtourisme en compagnie de Maria Gravary-Barbas, professeure de géographie à la Sorbonne.
Mais tout d'abord, direction la Slovaquie. Arrêtons-nous sur les conséquences politiques de l'assassinat en Europe d'un journaliste anti-corruption. Le Premier ministre slovaque Robert Fico a présenté sa démission hier au président de la République après 10 années passées au pouvoir à manier la rhétorique anti-migrant et le sentiment nationaliste. Robert Fico, à la tête du Parti social-démocrate, allié à l'extrême droite, a finalement été emporté par le scandale provoqué par la mort d'un journaliste qui travaillait sur des affaires de corruption jusqu'au sommet de l'État. Les précisions de notre correspondant dans la région, Alexis Rosenzweig.
Après les grandes manifestations organisées à Bratislava, la démission de Robert Fico était un sujet âprement discuté dans une Slovaquie encore sous le choc du meurtre à bout portant du jeune journaliste et de sa fiancée fin février. L'article de Jan Kuciak, inachevé mais publié post-mortem, mettait en cause des personnalités très proches de Robert Fico, liées avec des hommes d'affaires italiens, membres présumés de la puissante mafia calabraise 'Ndrangheta. Le chef du gouvernement slovaque a d'abord fait démissionner ses conseillers très embarrassants, puis son ministre de l'Intérieur en début de semaine. Après 10 années passées au pouvoir, Robert Fico espérait bien résister à la vague d'indignation et de protestation. Après avoir posé à côté de liasses de billets promises pour toute information sur le crime, il a ensuite crié au complot international contre son gouvernement, un complot fomenté selon lui notamment par le chef de l'État Andrei Kiska et le milliardaire américain George Soros. Désormais, Robert Fico envisage donc de rester président du parti au pouvoir, en laissant un membre du gouvernement actuel devenir Premier ministre. Pas sûr que cela suffise. L'opposition et la presse sont en tout cas loin d'être convaincus, tandis que l'enquête policière n'a pas encore révélé d'indices sur les auteurs ou commanditaires du double homicide.
7h03 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. C'est presque devenu son quotidien à chaque fois qu'il se déplace en France. Emmanuel Macron est pris à partie par des retraités.
Ils se plaignent d'une baisse considérable de leur pouvoir d'achat depuis que la CSG a augmenté pour les retraités qui touchent plus de 1200 euros par mois. Emmanuel Macron interpellé sur le sujet hier à Tours.
Là, vous nous avez vraiment pompés.
Non, c'est pas vrai.
On d'abord, a travaillé toute notre vie.
Vous êtes parti à la retraite à peu près au même âge que vos parents, mais avec une espérance de vie de 10-15 ans de plus. C'est vrai.
Oui, c'est peu. Vrai.
Et donc, moi, la CSG, on l'a pas fait pour pomper, comme vous dites. Non, on a baissé de 3 points toutes les cotisations salariales. Donc, tous ceux qui travaillent touchent plus pour qu'ils gagnent plus par le travail, que ça redémarre plus vite, pour qu'ils puissent vous payer les retraites.
L'échange entre Emmanuel Macron et des retraités hier à Tours qui va se poursuivre aujourd'hui à distance. Emmanuel Macron reste en Touraine et va continuer à tenter de se défaire de son image de président des villes et des riches que l'opposition aime à dénoncer. Quant aux retraités, ils descendent, eux, dans la rue pour défendre leur pouvoir d'achat à l'appel de 9 syndicats, Catherine Pétillon.
Retraités et personnes âgées seront dans la rue aujourd'hui pour protester contre la politique d'Emmanuel Macron. Ils avaient déjà manifesté en septembre dernier. Entre-temps, au 1er janvier, de nombreux retraités ont de fait vu leur pension et donc leur pouvoir d'achat diminuer. En cause, la hausse du taux de prélèvement de la CSG, la contribution sociale généralisée. Il est passé de 6,6 à 8,3%, soit 1,7 point de plus. Si tout le monde est concerné par cette hausse, les retraités, eux, ne bénéficient pas de compensation, contrairement par exemple aux salariés qui voient leur cotisation sociale baisser. Cette décision, Emmanuel Macron l'avait justifiée dès sa campagne par le niveau de vie des retraités et a encore dit récemment l'assumer. Reste que la communication gouvernementale n'a pas été très bonne, renforçant le mécontentement, l'exécutif n'ayant eu de cesse de répéter que les retraites inférieures à 1200 euros bruts seraient épargnées. Or, en réalité, cette hausse de la CSG se calcule non pas sur la pension de chacun, mais sur le revenu fiscal du foyer. Autrement dit, si une femme touche 800 euros de retraite et son mari 1500, l'ensemble des revenus sont concernés par la hausse. Voilà qui s'ajoute à d'autres mesures plus anciennes comme le gel des pensions. Elles n'ont été augmentées qu'une fois en 5 ans et ne le seront pas cette année encore. De quoi nourrir plus largement le mécontentement, d'autant plus qu'aujourd'hui une autre mobilisation concerne les personnes âgées, celle des personnels des EHPAD, les maisons de retraite. Tous pourraient aussi se retrouver lors de la grande mobilisation nationale prévue le 22 mars prochain.
Il faudra du temps pour convaincre la base. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin, l'a concédé hier soir à Paris, alors que la grève générale se poursuit à Mayotte. Les barrages routiers qui paralysent le 101e département français depuis plus de 3 semaines maintenant. Ces barrages n'ont pas été levés hier en dépit d'un accord conclu avec le gouvernement mardi soir. Les manifestants réclament davantage de précision et du concret pour répondre à la crise sociale et sécuritaire dans cette île de l'océan Indien où 84% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors que la guerre en Syrie entre aujourd'hui dans sa 8e année, les troupes fidèles à Bachar al-Assad ont réussi à pénétrer hier soir dans une ville clé de la Ghouta orientale. Il s'agit de la zone d'Amouriyé, dans cette enclave rebelle assiégée aux portes de Damas, soumise à d'intenses bombardements de l'armée syrienne et de son allié russe. Depuis mi-février, plus de 1220 civils ont été tués. La guerre qui a poussé des millions de Syriens à l'exil, entre 50 000 et 70 000 personnes, des femmes et des enfants surtout, se retrouvent bloqués dans le désert, à la frontière entre la Syrie et la Jordanie. Dans le camp de Rokban, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes et les Jordaniens en interdisent l'accès. Reportage à distance donc du correspondant de France Culture dans la région, Étienne Monin.
Ce que montre Abdoul Fattah avec son téléphone portable, c'est l'un des 3 cimetières du camp planté en plein désert entre le sud de la Syrie et la frontière jordanienne. À Rokban, les réfugiés sont en voie de sédentarisation. Ils vivent maintenant dans des maisons en briques de terre coupées du monde, explique ce directeur d'école au visage fermé.
Tout le monde a abandonné ce camp. Il n'y a pas de véritable approvisionnement pour l'aide. Imaginez, il y a entre 70 et 80 000 personnes dans ce camp et on ne reçoit de l'aide que tous les 8 ou 9 mois. C'est pour cela que je l'appelle cet endroit le camp de la mort. Donc les gens sont dépendants de ce que les familles peuvent faire passer depuis l'extérieur, mais ce n'est pas assez pour répondre aux besoins en nourriture ou en eau ou en médicaments.
Depuis 2 ans, pour des raisons de sécurité, la frontière jordanienne est bouclée. L'aide humanitaire ne passe que 2 fois par an, confiée par l'ONU à une milice armée. Le camp de Rokban est non seulement isolé, hors de tout contrôle, mais il est aussi en sursis. Les forces du régime syrien et les groupes radicaux sont à moins de 100 km, tenus en respect par la coalition qui a une base militaire pour l'instant à protéger dans la région.
La guerre en Syrie qui entre dans sa 8e année, 10 mois par ailleurs de présidence d'Emmanuel Macron, journée spéciale sur France Culture et l'occasion pour nous de revenir sur le rôle de la France qui en 7 ans a oscillé entre possible intervention militaire en Syrie et encouragement au pourparlers. Éric Biégala.
Sur un point au moins, les 3 présidents français qui se sont succédés à la tête de l'État depuis le début de la crise n'ont guère varié. Ils désignent tous Bachar al-Assad comme le principal responsable du conflit. En mars 2012, après 1 an de guerre, Nicolas Sarkozy, encore président pour quelques mois, l'affirme d'ailleurs clairement.
Maintenant, ça suffit. Ce régime doit partir.
Au printemps de la même année, c'est François Hollande qui prend le relais. Le nouveau président français n'hésite pas à envisager une opération militaire pour arrêter le conflit. C'est ce qu'il explique lors d'un entretien sur France 2.
J'entendais Bernard-Henri Lévy évoquer une intervention armée. Elle n'est pas exclue, à condition qu'elle se fasse par une délibération du Conseil de sécurité.
À l'été 2013, il n'est plus question d'obtenir un aval onusien pour passer à l'action. Après le bombardement de la Ghouta orientale à l'arme chimique, la ligne rouge a été franchie. Devant la conférence des ambassadeurs, François Hollande parle d'aller punir Bachar al-Assad.
La France est prête à punir ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents.
Il n'y aura finalement pas d'intervention militaire, ni française, ni occidentale en 2013. Il faudra attendre fin 2015 pour que la France lance ses avions en Syrie, mais uniquement sur les djihadistes de l'État islamique. Quant à une résolution politique du conflit, pour la France de François Hollande, elle passe nécessairement par le départ de Bachar al-Assad. Le président français le répète à l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2015.
Assad est à l'origine du problème, il ne peut pas faire partie de la solution.
Les diverses négociations ne donnent n'abandonneront rien. Bachar al-Assad est toujours en place. À son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron réitère presque immédiatement des menaces d'intervention contre Bachar si celui-ci continue d'utiliser des armes chimiques. Le nouveau président français s'exprime aux côtés de Vladimir Poutine à la fin mai de l'année dernière, reprenant l'idée de la ligne rouge à son compte.
Une ligne rouge très claire existait de notre côté, l'utilisation d'armes chimiques par qui que ce soit. Toute utilisation d'armes chimiques fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate, en tout cas de la part des Français.
Depuis lors, aucune attaque chimique du régime n'a donné lieu à la moindre représaille française. Quant à Bachar el-Assad, et c'est la seule réelle évolution, Emmanuel Macron ne tient plus son départ pour un préalable à toute solution politique. Le président français le précise en septembre à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Pour ce qui est de Bachar el-Assad, c'est un criminel, mais je n'ai pas fait de sa destitution un préalable par pragmatisme. Parce que nous avons fait de sa destitution un préalable depuis le début de la crise, sans aucun résultat.
N'empêche que, préalable ou pas, l'heure n'est toujours pas à la négociation avec qui que ce soit. Bachar el-Assad semble vouloir terminer cette guerre en la gagnant, c'est-à-dire en défaisant l'un après l'autre tous ses adversaires.
10 mois de présidence Macron, quel est le sens de l'action du gouvernement? Journée spéciale sur France Culture avec, dès 7h40, Guillaume Erner, votre invité, l'économiste et écrivain Jacques Attali. Et puis du grain à moudre ce soir à partir de 18h20, Hervé Gardette demandera à ses invités si la politique d'Emmanuel Macron est indéfinissable. La suite aujourd'hui du procès du groupe dit de Tarnac. 8 prévenus qui comparaissent en correctionnel à Paris pour dégradation de lignes SNCF et manifestations violentes. Ils dénoncent un procès politique et le profil de ces 8 prévenus se dessine peu à peu, Florence Turme.
Au fil du procès, Julien Coupa s'impose clairement comme le chef du groupe, l'idéologue de Tarnac, efficacement secondé par Mathieu Burnel pour occuper l'espace-temps judiciaire et manier la dérision comme une arme de défense. Les uns après les autres, les 8 prévenus refusent de répondre aux questions de la présidente, de la justice qu'elle incarne, image d'un système qu'ils continuent à rejeter en bloc. La vie de mes amis, la mienne, n'a pas vocation à être rendue transparente aux yeux de la justice, lance Mathieu Burnel, poursuivi pour avoir refusé un prélèvement ADN et toujours prompt à se lever de son siège pour intervenir. Son discours oscille entre la provocation et l'humour potache quand celui de Julien Coupa s'étale sur de longues tirades empreintes de sa philosophie libertaire, refusant par exemple d'être le vermisseau humain qui se tire-bouchonne devant l'auguste justice. L'ADN du groupe de Tarnac paraît même avoir déteint sur l'avocat de 7 des 8 prévenus, Jérémy Assous, qui proteste haut et fort contre l'anonymisation des policiers chargés de la surveillance du groupe, répètent régulièrement leur identité quand la présidente a pourtant rappelé les termes de la loi. Seule, Hildune Lévy, l'ancienne compagne de Julien Coupa, semble un peu à part aux côtés de ses 2 avocats, visage mutin encadré de cheveux bruns. Elle parle avec les mains, raconte un séjour au Canada qui n'était, dit-elle, qu'un voyage en amoureux. Et on m'a, poursuit-elle d'une voix claire, ton vif, arraché un bout de ma vie.